On débute la semaine avec Louis Lacroix. Salut Louis.
Bien le bonjour.
Réorganisation au Parti québécois. On réfléchit à notre avenir. Pas ben ben le choix, vas-tu me dire, j'imagine.
Exactement. Une autre réorganisation au Parti québécois, me diras-tu, parce que eux autres, s'est rendu des spécialistes là-dedans depuis quelques années, là, avec les courses à la chefferie qui se sont succédées. Puis les derniers résultats d'élections également, 10 députés, 17,06% des voix exprimées au Québec. C'est un dur résultat pour le Parti québécois. Et puis, au cours de la fin de semaine, ce qu'on m'a raconté, c'est que il y a des anciens du Parti québécois, des anciens apparatchiks également, des députés, qui se sont réunis quelque part en Montérégie, en compagnie du chef intérimaire Pascal Bérubé, pour réfléchir à la suite des choses. Alors, là, quand je te dis réfléchir à la suite des choses, c'est réfléchir au sens large. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec la structure actuelle du Parti québécois, avec la permanence qui est là, le directeur général Alain Lupien, entre autres choses, qui était le directeur général de PKP dans le temps, là, mm-hmm. c'est Pierre-Carl Péladeau, quand il était chef, qui avait choisi Alain Lupien pour être le directeur général. Or, au Parti québécois, quand on change de chef, généralement, on change aussi la direction générale. Et là, ben, on est encore avec Alain Lupien, alors que Jean-François Lisée n'est plus là. Est-ce que la structure actuelle, la direction du Parti québécois, est toujours la bonne à la bonne place? Il y a des gens qui se mettent à réfléchir là-dessus. L'autre affaire aussi, c'est de voir les derniers résultats. Qu'est-ce qui a amené le Parti québécois à ce résultat-là, le pire résultat depuis 1976? Là? Donc, il faut réfléchir, oui, à l'avenir, mais à l'avenir politique, à la mission du Parti québécois, ce qu'il faut recentrer. Alors, tout ça dans un contexte où il va y avoir forcément, au cours des prochains mois, une course à la chefferie. Il y a déjà des candidats qui s'annoncent, là. Bon, pas officiellement, mais on sait que Véronique Yvon est intéressée. Sylvain Gaudreau aussi, peut-être Catherine Fournier, qui représenterait vraiment la jeunesse là du Parti québécois. Alors, on est en train d'évaluer l'ensemble de l'offre politique du Parti québécois dans un contexte où il y a quand même une espèce de lune de miel en ce moment avec la CAQ, parce que ça fait pas 100 jours. Ça va faire 100 jours, incidemment, là, que la CAQ est au pouvoir mercredi prochain. Alors, évidemment, là, on est en train de revoir tout ça.
Est-ce que ça a transpiré, Louis, sur l'indépendance, sur la souveraineté? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Parce que Jean-François Lisée nous l'avait dit, là, la prochaine, si on pouvait être élu un mandat et ensuite y aller au deuxième, ça faisait pas le bonheur des plus pressés un peu. Ils en sont
Où, moi, ce que j'entends, c'est que, bon, il y a plusieurs ex-députés là, qui ont perdu, entre autres, à la dernière élection, qui disent, ben, il faut y aller en ligne sur la souveraineté. Mm-hmm. Il faut vraiment profiter de la notoriété du Parti québécois, de l'histoire du Parti québécois, pour revenir à cette option-là. Parce que quand tu regardes le dernier résultat d'élection, l'enjeu national n'a pas été un facteur dans cette élection-là. Et pour une des rares fois, là, depuis à peu près 40 ans, l'enjeu national n'était pas un enjeu discuté durant la campagne électorale. Alors là, il y a des gens qui disent, ben, est-ce qu'on devrait pas revenir justement à la source même de la création du Parti québécois et dire, regardez là, nous autres, c'est ça qu'on fait dans la vie. Notre but, c'est ça. Et puis allons-y avec cette option-là. C'est des choses qui se discutent. Il y a d'autres, évidemment, discussions peut-être un petit peu plus stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la course à la chefferie? Parce qu'il doit y avoir un congrès national pour réorienter, bien sûr, le Parti québécois. Est-ce qu'on doit faire une course à la chefferie avant un congrès national? Est-ce qu'il faut faire un congrès national avant la chefferie ou encore les deux en même temps? Est-ce qu'on pourrait faire, justement, le culminer, si on veut, une course à la chefferie lors d'un congrès national du Parti québécois? C'est les options actuellement qui sont étudiées par des gens qui aimeraient avoir une certaine influence là, sur la suite des choses au Parti québécois.
Bon, on sait que le Parti québécois, tu parlais justement là, du nouveau chef en devenir. Le Parti libéral n'a pas de chef encore non plus. Donc, Québec solidaire qui veut profiter de cette espèce de désorganisation là, présentement.
Ben oui, exactement. Eux autres, on a beaucoup parlé d'eux lors de la courte session parlementaire qui a duré 8 jours ou à peu près, là. Et puis, force est d'admettre que Québec solidaire a tiré son épingle du jeu. C'est le parti en ce moment qui est le mieux organisé dans les oppositions, parce que les libéraux sont eux autres aussi se cherchent. Ils vont devoir lancer une course à la chefferie. Pierre Arcan veut bien lui essayer de mener ça à sa façon, mais quand t'es dans le poste intérimaire, évidemment, t'as pas les coups des franges. Puis le Parti québécois, on vient d'en parler, c'est un peu la même chose. Alors, ce qu'on veut faire à Québec solidaire, c'est au cours des prochaines semaines et surtout au cours de la prochaine session, essayer de se démarquer en tant qu'opposition. Ils ont le même nombre de députés et le même temps de parole que le Parti québécois. Et donc, on veut essayer de profiter justement de cette espèce de déséquilibre sur le plan politique des deux autres formations d'opposition pour essayer notamment de se démarquer en matière de changement climatique. C'est rendu là la marotte là, de Québec solidaire, et c'est ça qui va marquer la prochaine session parlementaire en termes de questions là, quand on va s'adresser au gouvernement de François Legault. Parce que, bon, on ne sait pas encore où se loge le gouvernement de François Legault en termes d'environnement. Et puis, bon, on a une ministre de l'Environnement qui a des preuves à faire aussi. Alors, on veut profiter de tout ce contexte-là.
Ça, c'est poli.
Quand même poli, là, pour justement essayer d'aller chercher, marquer des points sur le plan politique pour Québec solidaire.
Québec solidaire a une facilité à faire parler de... Le parti a une facilité à faire parler de lui, de ses candidats,
ben oui.
tout ce qui est en dehors de la politique présentement, mais c'est là, sur le terrain politique, que j'ai hâte de voir là, pour la prochaine session.
Exactement, sauf qu'ils ont quand même bien joué leur carte. Là. On a beaucoup parlé de Catherine Dorion, puis ses habits, puis ses... Sa voiture, puis tout ça, là. Mais il reste que pendant qu'on parlait de ça, en fait, on parlait du parti, on parlait pas des autres, tu comprends?
Ouais.
Alors, ils ont, dans l'offre, si on veut, politique de la dernière session, bien sûr, François Legault, a retenu un peu l'attention, évidemment, parce qu'il est au gouvernement, pas mal l'attention même, mais il reste que dans les oppositions, le parti qui, à mon sens, a eu le plus de visibilité, ça a été Québec solidaire. Le Parti québécois est bien conscient de ça et veut essayer de se rattraper aussi.
Bon, il reste à peu près 3 semaines avant que le gouvernement techniquement puisse commencer à sévir contre les propriétaires d'armes à feu qui ne sont pas enregistrés au registre des armes d'épaule du Québec. Mais il n'y a pas trop de volonté là, à vouloir sévir à ce sujet-là.
Ben en fait, il y en a pas.
À tout le moins.
Ben c'est ça, parce que tu vas faire comment là pour sévir contre les gens qui n'ont pas inscrit leurs armes, parce que tu le sais pas qu'il y a des armes à la maison, sont pas inscrites, tu comprends? Puis le dernier registre, les données qui ont été entrées dans le dernier registre datent de 2012, c'est les données du fédéral qu'a reçu le gouvernement québécois, datent de 2012. Depuis ce temps-là, est-ce que les gens ont encore des armes en leur possession? On peut penser que oui, mais on le sait pas véritablement. As-tu changé d'arme? En les as-tu vendues? T'en es-tu débarrassé? Alors, si on veut appliquer... C'est vrai que dans la loi sur qui a créé le registre des armes à feu l'année passée, il y a des sanctions qui vont de 500 à 5000 $. Mais tu fais comment pour les appliquer? Tu peux pas débarquer chez les gens puis dire, ben nous autres, on pense que tu as des armes chez toi puis sont pas enregistrées. Puis là, tu vas... Tu comprends? Tu peux pas faire ça. Alors, c'est difficilement applicable. Le gouvernement le sait, le ministère de la Sécurité publique le sait. Et en ce moment, on mise énormément sur la sensibilisation, campagne de publicité pour inciter les gens à enregistrer leurs armes. Mais les derniers chiffres qu'on a eus, là, sont pas très éloquents. 20% des armes ont été enregistrées. On pense qu'il y a autour de 1,7 million d'armes actuellement en circulation au Québec. Là, on parle des armes d'épaule, des armes de chasse, là, on s'entend. Et puis, on pense qu'il y a 20% de ces armes-là qui ont été enregistrées. Alors, c'est très peu. L'échéance, c'est le 29 janvier prochain. Mm-hmm. La loi est en vigueur depuis un an, là, depuis le 29 janvier de l'année passée. Mais normalement, on avait dit on va donner une période là, d'un an pour que les gens puissent s'enregistrer. Mais force est d'admettre qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a même une espèce de mouvement de boycott contre le registre des armes d'épaule et qui fait en sorte qu'actuellement, ça fonctionne pas très bien, ce registre.
Juste pour illustrer ce que tu disais tantôt, Louis, j'entendais dans la tribune de nuit avec Yvon cette nuit, quelqu'un téléphone, le monsieur c'est un septuagénaire. Il y a des armes chez lui, il dit, moi j'étais un tireur à l'époque, je faisais des compétitions, des championnats de tir. J'ai des vieilles armes chez nous là que j'ai gardées en démonstration, que j'ai gardées dans mon garde-robe parce que c'est un souvenir pour moi, comme il y en a qui garderaient leur vieux ski. T'sais. Ça n'a pas fonctionné. Penses-tu sérieusement que je vais enregistrer cette affaire-là? Ou on va me demander, j'en ai trois, là, je vais payer 60$ pour l'enregistrement de chacune de ces affaires-là?
Mais là, ça coûte rien. C'est gratuit, l'enregistrement des arbres. Hein?
Mais là, c'est le taponnage qui vient avec aussi.
Ben, il n'y a pas beaucoup de taponnage. J'ai enregistré mes arbres, on dirait.
Ah, t'as enregistré ça, toi?
Ben oui, puis ça prend 10 minutes, c'est fait. Ça coûte rien. Tu vas sur le site Internet, tu remplis les cartes, c'est fini là. Alors, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Ça coûte gratis, comme disait Voltaire. Et il y a actuellement une opposition philosophique contre ouais. le registre des armes à feu. Les gens veulent pas s'inscrire parce qu'ils disent que, bon, dans les autres provinces, il n'y a pas de registre, puis il n'y a pas de raison qu'au Québec, il y en ait, selon
eux. Il y a déjà un contrôle qui se fait quand tu prends ta possession d'armes.
Exactement. C'est ça. Quand tu as un permis d'achat d'armes à feu, là, ou d'acquisition d'armes à feu, il y a un certain enregistrement qui se fait déjà d'emblée. Donc, il y a une espèce d'opposition qui est un peu philosophique au registre des armes d'épaule. Ça coûte rien s'enregistrer. C'est pas long. Tu vas sur le site et puis tu t'enregistres très facilement via Internet. Mais quand même, il y a des gens qui refusent de le faire simplement par principe pour dire, ben garde-moi, mes armes ne sont pas enregistrées.
Salut Louis, on t'écoute ce midi.
Avec plaisir.
Salut bien, on va voir les 7h17. Le pont Champlain-Linda.